moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Ah oui, à boire et à manger. Hein. Bien le bonjour, les amis. Alors, c'est vrai qu'entre la météo et les nouvelles, on a besoin de se faire plaisir et de se faire du bien. Eh bien, c'est ce que nous allons faire jusqu'à midi et demi. La preuve, tiens, avec notre dossier du jour, on va remonter le temps de la cuisine française à travers les films du grand Louis de Funès. Une belle régalade, vous entendrez. Et eux aussi vont vous régaler. Voici mes bons vivants du jour. Elle connaît beaucoup de Monsieur Septime. Elle aime aller au grand restaurant pour nous le raconter dans le journal du dimanche et ici. C'est Charlotte Langrand.
Exactement. Bonjour Laurent.
Bonjour Charlotte. S'il ne devait choisir qu'un film de Louis de Funès, ce serait La Grande Vadrouille à cause des scènes tournées aux Hospices de Beaune. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Est-ce que vous nous ferez, Laurent, avant la fin de l'émission, votre célèbre imitation de Louis de Funès?
Ma biche, mais je suis imitateur d'imitateurs.
Je sais,
ma
biche.
Je le ferai. Alors, on retrouvera vos questions, chers auditeurs. Le journal de la cuisine sera là et le camarade Jean-Luc Petit-Renaud nous racontera une belle histoire, une très belle histoire. Et pour finir en beauté, Pascal Légitimus viendra casser la croûte avec nous. Eh bien allez, on passe à table, tiens. C'est vrai, je le disais, les températures baissent, le moral de certains aussi, alors plus que jamais, mettons-nous à table pour se faire du bien. Quel est votre goût de la semaine, les amis, à la maison ou en voiture? Posez-vous la question, le goût qui a marqué votre semaine. Charlotte.
Alors moi, c'est le goût du végétal, mais alors pas n'importe lequel. Hein, celui du chef William Ledeuil, qui est un peu le maître des assaisonnements asiatisants et qui a fait un livre sur les bouillons avant et maintenant il s'attaque au végétal de façon assez magistrale. J'ai pu goûter certaines de ses recettes dans son restaurant The Kitchen Gallery à Paris. Par exemple, coco de pimpol, girolles, curry vert de persil,
oh, c'est beau, ça.
Tempura de sauge, ravioles de bled, jus de gingembre, glace chocolat blanc ou wasabi. Si vous voulez, on n'attend pas du tout une protéine animale, elle ne vous manque pas, c'est vraiment magistral. Donc faites les recettes chez vous ou allez les goûter.
C'est un
chez
de nos
lui.
Plus grands chefs, c'est vrai, William Ledeuil. Il est très discret, amis provinciaux, comme on dit. Oui, j'aime bien parler de province parce qu'on parle des territoires, mais moi je suis un provincial, donc parlons de la province, la vraie province. Ah. Et quand vous venez à Paris, ça fait partie des tables où il faut aller faire ripaille parce qu'il a plusieurs restaurants avec plusieurs prix en plus. Donc vraiment, c'est une belle adresse.
Chef complet.
Olivier.
Eh bien, moi je vous emmène voyager un peu. J'ai goûté de délicieuses falafels de légumes. Elles sont sélectionnées.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ben écoutez, ça m'arrive de temps en temps de manger des légumes, je vous rassure. Et elles sont sélectionnées par le chef Fadi Abou, qui a lancé une plateforme de diffusion de produits. Vous savez, c'est très à la mode, hein, des produits livrés à domicile, sélectionnés de très belle qualité sur délicieusesecrets.com. Vous pouvez vous faire livrer ces falafels, les faire chez vous. C'est 9,50€ les 20 falafels, c'est tout à fait raisonnable. Et elles sont absolument délicieuses.
Bon.
Il y a plein d'autres produits sur ce site. Je vous recommande d'aller.
Avec la farine de pois chiche.
Oui, exactement.
Eh bien, mon goût de la semaine, c'est le goût de la transmission. Vous connaissez Ginette Mathieu, notre Ginette Mathieu nationale.
Pas connue personnellement, mais...
Non, mais voilà, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, qui a écrit « Je sais cuisiner », un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Eh bien, ce best-seller était adapté en bande dessinée par Jeanne-Zoé Lecorche. Et on retrouve tous les grands classiques de notre Ginette, les œufs mimosa. Ce sont les tradis de la cuisine française. Hein, le bœuf bourguignon, le pot-au-feu, la mousse au chocolat. Et en BD, eh bien, c'est une bonne façon aussi de se remettre à la cuisine quand on aime les images. Et puis pour les enfants aussi, voilà. Ça s'appelle « Je sais cuisiner » en BD. Et c'est chez Albin Michel. Voilà, allez, c'est l'heure d'aller faire ses courses. Jean-Luc Boujon, tiens, nous donne rendez-vous sur la départementale 42. À Mornan, c'est précis, hein, entre Lyon et Saint-Etienne, dans un magasin de producteurs Uniferme. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce point de vente? Vos réponses au micro de Jean-Luc Boujon, notre correspondant lyonnais.
C'est un magasin qui a une belle éthique, qui est tenu par les producteurs eux-mêmes. Je suis sur le territoire, je mange jusqu'à sur le territoire et j'aide les producteurs qui sont sur le territoire. Ça a du sens pour moi.
J'ai un chou-fleur, des poires, échalotes, carottes. C'est l'occasion qui fait de la roue. J'avais pas l'intention d'acheter un chou-fleur, mais ils sont sympas, ils sont beaux.
Vous allez préparer comment?
À la vapeur, puis après je les fais revenir dans un petit peu d'échalotes, un petit peu de crème fraîche, tout simplement.
Ça vous fera 22,52€, s'il vous plaît.
Il y a des belles salades, il y a des super haricots verts, parce qu'il y en a encore. Il reste encore des tomates, des andines et des cobras. Et puis il y a des yaourts de brebis, d'un gaec qui est juste à côté aussi.
Alors j'ai pris de l'ail, je vais prendre des œufs, parce que c'est indispensable. Quelques poires pour refaire des fruits au sirop. Puis peut-être un peu de viande, parce que c'est de la viande locale. Je pense que ce qu'il y a de meilleur, c'est la cochonaille. parce que j'ai été me promener, je sais où sont élevés les cochons. J'ai vu les conditions d'élevage et là, on mange le cochon les yeux fermés.
C'est des cochons heureux.
Ah, je pense, oui. Ouais, ouais.
Donc voilà. Ça fait de la bonne charcuterie.
Voilà, c'est ça.
Et oui, de la bonne cochonnaille et pas de la cochonnerie. Voilà, c'est toute la différence avec ces,
ça change tout.
Ces magasins paysans. Encore une fois, le local assure la traçabilité.
Tout est dit. Il n'y a rien à rajouter.
Et ça fait plaisir de voir que les gens, maintenant, sont vraiment attachés à ça.
Oui, gardons ces réflexes. Mmh. Vous avez raison, parce qu'on les a bien redécouverts pendant le confinement.
Exactement.
On aurait eu tendance à les repérer dans certaines régions. Donc, retrouvons-les à nouveau. En tout cas, maintenons-les. Allez, c'est l'automne, vous le savez. La saison des courges. Eh bien, on revient juste après avec le patidou. Oh, on va le récolter, le passer à la casserole, le patidou. Il est doux, votre patidou ?
Oui, il est doux.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
En ce moment, nous avons tous besoin de douceur. Alors voilà pourquoi nous ouvrons le bal des courges avec un légume de saison et un légume d'actualité qui est là pour nous faire du bien. C'est le patidou. C'est un joli nom, ça, Charlotte, déjà.
C'est très beau, c'est très beau. Et puis, c'est dans l'immense famille des courges. Ah. C'est un petit peu quoi, le cousin lointain. Il est tout petit et puis il a des côtes bombées blanches entrelardées de bandes vertes. Voilà, il n'est pas orange comme les courges habituelles.
Oui, c'est le cousin du potimarron, vous avez raison.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, hein. À ne pas confondre avec le pâtisson.
Ah non, non, rien à voir. Le pâtisson qui est plutôt un cousin de la courgette, là, pour le coup, qui est une espèce de courgette aplatie qui ressemble à un béret et qui, elle, pousse plutôt en été, alors que le patidou, là, c'est maintenant. Oui. Hein, c'est septembre, octobre, novembre.
Et ça se garde longtemps, ouais, vous allez
entendre. C'est assez joli pour mettre en décoration sur une cheminée aussi.
Oui.
Aussi, hein,
mais ce n'est pas des coloquintes, hein, ce n'est pas pareil. Alors, je ne vous dis pas tout parce qu'on va l'entendre justement dans le reportage. On vous emmène le récolter avant de passer en cuisine. Direction le Nord, tiens, chez Agnès Kind, qui est jeune maraîchère. Elle nous présente cette courge emplie de douceur. On est à Houpline et Lionel Gougelot, notre correspondant dans la région, l'a suivi jusque dans la chambre chaude. Ouais, c'est là qu'on les conserve, les patidous.
Donc ça a été récolté tout début octobre. Voilà, juste pour être sûr que les gelées ne les prennent pas. C'est un légume fruit, mais ça se conserve au chaud parce que sinon ça a besoin de sécher en fait pour conserver. On peut le garder facilement jusque décembre-janvier dans ces conditions-là. Normalement sans souci. Souvent la réaction c'est ça se mange parce que en fait ça ressemble un peu aux coloquintes qu'on peut trouver en déco pour Halloween et tout ça. Donc ça se mange, c'est très bon. Les gens sont assez surpris, mais ça a une chair très très fine. Par rapport au potiron, c'est plus sucré que le potiron. Du coup, là, c'est devenu un peu tous les ans, donc mes clients commencent à être un peu habitués. Mais quand même, les nouveaux, à chaque fois, c'est la petite surprise. Donc, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils le gardent jusqu'à Halloween, ils le mettent sur la table pour la déco, puis après, ils le mangent.
Eh oui, double utilisation, la déco et c'est comestible.
Et en portion individuelle, c'est bien, vous pouvez le servir comme ça à chaque invité, c'est bien.
Vous avez raison, alors vous allez me faire ma transition.
Ah, plus de vaisselle à faire comme ça.
Non, mais c'est vrai, ça fait un contenant, elle a raison, Charlotte. Ça ressemble à un mini potiron, mais ça se cuisine comme le potimarron. On le disait, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est un velouté qu'on va servir à l'intérieur, effectivement. Mmh. On récupère la chair, qu'on va faire revenir avec de l'huile d'olive et une pointe de curry, du lait, du bouillon de légumes, par exemple. Vous mixez tout ça, allez, 25 minutes de cuisson, et ensuite, vous remettez ce velouté à l'intérieur du patidou. Et là, on casse des œufs qu'on met à l'intérieur, comme l'œuf cocotte hein, qu'on fait dans un ramequin, et vous le remettez 10 minutes au four à 150 degrés. Ça fait un velouté patidou œuf cocotte que vous pourrez refaire ce week-end sans aucun problème. On vous mettra la recette sur
moderne de saison.
Europe1.fr. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit tiens, avec ça, Olivier?
On va boire le velouté, hein. Vous savez, en général. Non, mais le liquide et le vin, c'est pas facile. En plus, le liquide est chaud, donc franchement, faites-vous plaisir avec les œufs dedans, le velouté. Il n'y a pas besoin d'ouvrir une bouteille de vin avec ça. Il n'y a pas d'accord magique.
Du vin solide alors.
Ouais, voilà, mais j'en ai pas encore trouvé.
En glaçon, voilà.
À croquer. Mais non, j'en ai pas. Non, faites-vous plaisir avec ça et puis gardez le vin pour le plat d'après.
Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions, amis auditeurs. Et c'est vous, Charlotte, qui avez récolté les questions de nos auditeurs cette semaine.
Oui, sur la page Facebook des Bons Vivants ou sur le 3921. Si vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses, d'une petite astuce en cuisine, vous nous posez vos questions et nous sommes là pour y répondre. Cette semaine, nous avons reçu un message sur le répondeur. On écoute Christophe.
Salut Laurent, ici Christophe de Londres. Alors j'aimerais savoir si tu pourrais partager des trucs ou astuces sur comment faire cuire le poisson. Parce que moi, typiquement, je le mets sur un lit de tomate avec de l'huile d'olive, mais j'aimerais bien un petit peu varier. Je te remercie.
Eh bien, welcome Christophe.
De Londres, c'est
Londres. Tu es à Londres, il faut manger du fish and chips à Londres pour changer, Christophe. C'est la capitale du fish and chips, c'est vrai qu'il y en a de beaux. Je me suis amusé, tiens, ben, pour rappeler la province à Christophe, à faire il n'y a pas longtemps le lieu noir à la bord de la bordelaise. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était un plat préparé de Findus, hein, le lieu noir à la bordelaise qu'on trouvait en barquette. Moi, j'étais élevé à ça. Quand ma mère travaillait, elle me faisait ce plat qui dépannait bien.
Un bon
comme
souvenir,
on dit.
Non
ouais, oui. Mais oui, mais je l'aimais bien à l'époque, bien sûr. Et donc, c'est très simple. Vous allez faire une petite farce comme ça à base de chapelure maison, de vin blanc, de jus de citron et de persil et de beurre. C'est pas une farce vraiment, c'est une sorte de pâte à crumble qu'on fait à la poêle et qu'on fait dessécher. Et vous mettez ce petit mélange là de chapelure, persil, vin blanc, beurre par-dessus vos filets de lieu noir et vous les enfournez 10 minutes par exemple, tout simplement à 180 degrés au four et vous aurez de beaux filets de lieu noir à la bordelaise. Voilà Christophe.
Une autre option, Olivier ?
Ah bah, le poisson, pourquoi le cuire ? On peut aussi le manger cru. Hein. S'il a des beaux poissons bien frais, un tartare de poisson ou un ceviche, c'est délicieux aussi.
Une autre question, Charlotte ?
Oui, sur le groupe Facebook des bons vivants, Christelle nous dit qu'elle peine à sortir du chou-fleur en gratin ou en salade. Alors, est-ce que vous pouvez l'aider avec un peu de nouveauté, messieurs.
Ah, bah, Olivier,
une petite crème du Barry, tiens, avec pourquoi pas de la truite ou du saumon fumé. Alors, c'est la crème du Barry, c'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est des poireaux qu'on fait émincer, on les fait revenir dans du beurre, on rajoute un peu de farine, on la fait cuire un peu parce que la farine crue, c'est vraiment pas bon. Et puis, on ajoute du bouillon. On porte à ébullition nos petits morceaux de chou-fleur, on laisse cuire 40-45 minutes à feu doux. Vous sortez, vous rajoutez un petit peu de crème, vous mixez le tout. Et en dehors du feu, on rajoute deux jaunes d'œufs qu'on fouette énergiquement pour donner de la consistance. Mmh. Et puis, on va rajouter des petits dés de truite fumée, par exemple, pour donner un petit côté en plus.
Oui, c'est un bel accord, fumée, la truite fumée.
La truite ça marche très très bien avec cette crème du Barry. Et puis, on la sert bien chaude. Et là, je pense que c'est une bonne manière de sortir du chou-fleur au gratin.
Eh bien voilà, continuez à poser vos questions, chers auditeurs.
Oui, sur le répondeur de l'émission au 3921, sur Twitter ou sur Facebook. Et puis abonnez-vous à la newsletter Cuisine pour retrouver les recettes et les conseils de l'émission.
Oui, et réagissez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1, on est là jusqu'à midi et demi. Et ne bougez pas parce que Charlotte, on vous retrouve dans un instant avec le journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud ne sera pas loin. A tout de suite.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors moi, il m'épate.
Il aimait faire rire et il aimait manger. On vous raconte quel bon vivant était Louis de Funès dans un instant. Et puis on va remonter le temps aussi de la cuisine française à travers ses films avec Alain Crugère qui lui consacre une très belle exposition à la Cinémathèque de Paris. Mais avant, c'est l'heure du journal de la cuisine avec vous, Charlotte. Alors voici les titres, tiens. Les restaurants face au couvre-feu, les oubliés de la crise sanitaire et la journée mondiale de l'alimentation. Alors, fermer ou ne pas fermer, telle est la question après les annonces du couvre-feu de jeudi dernier.
Oui, les fédérations de restaurateurs ont pris ce couvre-feu comme une mesure punitive et une fermeture déguisée des établissements. Et en effet, certains petits restaurateurs indépendants, déjà lourdement impactés par le confinement, puis par le protocole sanitaire renforcé de ces dernières semaines, ne pourront tout simplement pas rester ouverts, voire même survivre en étant amputés en plus de leur service du soir. D'autres tenteront de maintenir une activité minimum comme une ouverture au dîner dès 18h.
Encore une fois, il faut s'adapter à la situation et c'est très compliqué effectivement dans ces zones frappées par le couvre-feu. Ça va être comme aux États-Unis, on va dîner à 18h. Les employés de la restauration événementielle sont les grands oubliés de l'aide de la crise sanitaire. Faut pas l'oublier ça justement.
Non, on les appelle les extras. C'est 15 à 20 000 intermittents de la restauration dont le statut ne permet pas de toucher le chômage partiel. Avec la suppression des événements comme les mariages ou les salons, ils se sont retrouvés sans ressources. Mobilisés depuis des mois, en vain, ils en sont venus à bloquer le périphérique parisien mardi dernier pour alerter sur leur situation. Le député LREM Jean-François Mbaye et le sénateur Xavier Iacovelli seraient en train de finaliser une proposition de loi pour reconnaître enfin leur statut.
Oui, parce que ce sont les grands oubliés, effectivement, du domaine de la restauration. Parce qu'ils en font partie, ne l'oublions pas.
Ne les oublions pas.
C'était hier la journée mondiale de l'alimentation. Rappelez-nous,
oui,
tiens.
Oui, une journée qui a été créée il y a 75 ans pour sensibiliser l'opinion sur le fléau de la faim dans le monde et en faveur d'une alimentation saine pour tous. Rappelons que près de 690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, soit 10 millions de plus qu'en 2019. Ce chiffre déjà terrifiant ne cesse d'augmenter depuis 2014 et la pandémie de la Covid-19 pourrait le faire bondir à nouveau. Une des solutions envisagées serait, entre autres, de cultiver une plus grande diversité d'aliments pour nourrir les populations et préserver la planète.
Et oui, c'est effectivement ça, parce que de nombreuses personnes dans le monde participent à la production de viande et d'élevage et ils n'ont même pas assez de surface pour eux pour pouvoir se nourrir. Exactement. Donc ça fait partie des grands déséquilibres, effectivement. Merci Charlotte et à la semaine prochaine pour un autre journal de la cuisine. Et puis vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de retrouver notre camarade de la fourchette, Jean-Luc Petit-Renaud. Alors, comme vous, vous le savez, il a son rond de serviette à cette table. Conteur et mangeur magnifique, il nous raconte, mais écoutez, la belle histoire de la boulangère et d'un client pas comme les autres. Tendez l'oreille. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Salut, salut les compagnons de la bonne table. Je vous emmène à Cherbourg, dans le Cotentin, et plus précisément au cœur de la pâtisserie Ivar, à mon avis, l'une des meilleures de France. Là, chaque mercredi, figurez-vous, un client fidèle venait chercher sa tarte aux pommes pour deux. Au fil du temps, de mercredi en mercredi, Madame Ivar l'avait surnommé « mon petit client du mercredi ». Alors lui aimait cet anonymat et tout le monde se saluait. Un mercredi, à 19h, Madame Ivar baisse le rideau de fer de sa boutique et constate que la tarte aux pommes de son fameux petit client est restée sur l'étalage. « Oh, il a dû oublier », dit-elle à son mari. Elle s'installe alors dans sa cuisine face à la télé, devant un feuilleté au jambon, lorsqu'à 20h, Patrick Poivreux d'Arvor annonce, en titre de son journal, « L'immense poète français Jacques Prévert est mort aujourd'hui ». Madame Ivar bondit alors de sa chaise et hurle « Mais c'était mon petit client du mercredi !» Quelle discrétion, monsieur Jacques Prévert, anonyme sous sa casquette pied de poule. Cette histoire est vraie, je vous le jure.
Mais on vous croit, Jean-Luc Petit-Renaud, et qu'est-ce que vous racontez bien les histoires. Elle est belle, hein, cette histoire. C'est vrai qu'elle fout la chair de poule, cette histoire.
La tarte aux pommes orpheline.
Elle est belle, c'est exactement ça. C'est le poème de Prévert et de la boulangère. Il y avait un Prévert, mais il y a aussi un petit Renaud, voilà, qui sait bien raconter les belles histoires, et on est bien content qu'il soit avec nous à cette table. Et si vous aimez, justement, la plume, le style aussi de Jean-Luc, il y a ses romans, hein, Bienvenue chez moi, et les quatre saisons d'Émile et Marcel, et puis il y a tout Prévert à relire aussi pendant les vacances scolaires. Ça fait un bien fou. Allez, on continue de se mettre à table jusqu'à 12h30. Pascal Légitimus se rapproche et Olivier Pouls chambre ses bouteilles pour les 2 minutes du vin consacrées à une fierté, vraiment une fierté nationale. A tout de suite. Il aimait faire rire, jardiner et manger, du grand restaurant à la soupe aux choux en passant par l'aile ou la cuisse. On va remonter le temps de la cuisine française avec Louis de Funès. Tiens, au fait, était-il un bon vivant? Eh bien, on va poser la question à Alain Crugère, notre invité. C'est le commissaire de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque de Paris. Bonjour Alain Crugère.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Alors,
mais je suis très heureux d'être à cette table, surtout que les bons vivants, c'est bien, vous le savez, mieux que moi, c'est un film, entre autres, de Georges Lucas.
Un film à sketch,
c'est un film
oui.
à sketch, voilà. Mais le troisième sketch est un sketch avec Louis de Funès, écrit par Michel Audiard. Ça s'appelle Les Bons Vivants et c'est pas pour rien.
Eh bien, on va écouter dans un instant. Alors avant, je vous présente justement parce que vous êtes auteur, producteur. Vous avez animé longtemps l'excellente émission On ne parle pas la bouche pleine sur le service public. Vous avez deux passions, on vient de l'entendre, le cinéma et la cuisine. Vous êtes comblé avec cette expo alors?
Avec cette expo et cette émission, c'est fait pour moi.
Franchement, c'est fait pour vous. C'était un bon vivant, Louis de Funès?
Écoutez, je crois que c'était quelqu'un qui aimait la bonne chair. Il suffit de voir d'ailleurs son physique à l'époque où il était avec Gérard Houry, très proche. Je veux dire, tous les deux, c'était des gourmands, c'était des gens qui avaient une culture du goût aussi très aiguisée. Pendant sa jeunesse, il a souffert de la faim. Pendant la guerre, il a eu ce qu'il a appelé sa période de nouilles grises, où il était vraiment, il finissait les restes dans les arrière-cuisines après avoir joué toute la nuit du piano.
Longtemps pianiste de bar, on l'a entendu raconter ça régulièrement, mais c'est vrai qu'il passait des heures, et c'était un marathon à jouer pour nourrir sa famille.
Il était totalement essoré, c'est-à-dire qu'il jouait pendant 12 heures, et au petit matin, il rentrait chez lui, il se couchait, et là, il y avait une menuiserie en dessous, et donc il ne pouvait pas dormir.
C'est ça. Alors vous parliez du film Les Bons Vivants de Georges Lautner en 1965. On va écouter un extrait. Il joue le rôle de Monsieur Hautepin. C'est un assureur qui va recueillir une jeune fille de petite vertu, jouée par Mireille Dard, qui est sublime. Elle va chambouler sa vie à tel point qu'il décide de congédier sa bonne. Un extrait qu'on écoute justement dans lequel il explique la situation à son ami, joué par Jean Richard.
Où est passé Germaine? Germaine, je viens de la foutre à la porte.
Oh, c'est pas vrai.
Si, je l'ai foutu à la porte. Et je ne souhaite pas à mon pire ennemi de connaître ce que j'ai connu. Une domestique parfaite.
Parfaite, oui.
Trop parfaite. Le dimanche, un bœuf gros sel.
C'est bon, ça.
Tu parles le lundi des boulettes, le mardi des croquettes, et puis le mercredi des paupiettes.
T'aimes pas les paupiettes?
Si, ils n'ont pas les paupiètes. Alors le jeudi.
J'aime bien les paupiètes.
Oui, moi j'en prends les paupiètes.
On vous fera tout leur fort.
Oui, je m'en fous des paupiètes.
Les paupiètes. Tu aimais bien les paupiètes.
Oui, mais je n'aime plus les paupiètes. Et les gens parfaits sont des emmerdeurs.
Les gens parfaits sont des emmerdeurs. Oui, il est méconnu ce film, effectivement. Et là, on est en plein dans la cuisine bourgeoise, dans la cuisine des restes aussi, hein, avec reste.
On est dans ce que disait Claude Chabrol. Je veux dire, Claude Chabrol, il avait une passion pour les femmes qui pouvaient leur faire, à partir du bœuf à la ficelle, des boulettes, puis des paupiètes. Puis... C'était vraiment ça.
On connaît tous la scène du radis dans le grand restaurant, hein, où il se fait passer pour comme ça un chef d'orchestre un peu précieux, il se déguise. Et cette scène du radis, en fait, elle lui a été inspirée par d'autres films, Alain Kruger.
Alors, c'est-à-dire que l'année où il fait La traversée de Paris, sort sur les écrans un film avec Jean Gabin, qui est restaurateur dans les Halles telles qu'ils existaient avant d'être détruits. Et il y a Paul Demange, l'acteur Paul Demange, qui était un copain de Funès et qui a joué avec de Funès, qui a deux scènes. Et dans la première scène, il demande un radis. Et un radis avec de l'eau de vitel. Alors on lui dit, mais de l'eau de vitel normale ou grande source? Grande source, bien sûr. Et à la fin du film, ce qui est très amusant, c'est qu'il va demander toute la carte quasiment, avec des bouteilles de Gevrey-Chambertin. Enfin, et ce qui est amusant, c'est que dans L'aile ou la cuisse, on a quasiment la même scène au début avec de Funès et la scène de fin, quasiment la même avec Coluche.
Oui, s'inspirer, très très cinéphile, et puis noter tout sur des carnets. On les voit dans votre exposition à la Cinémathèque, c'est ça qui est génial. Il y a les carnets de Louis de Funès.
Moi, il y a un film que j'aime beaucoup, qui est un peu moins connu, avec Louis de Funès, dans lequel il joue le rôle d'un restaurateur ripeux. C'est le Gentleman d'Epson avec Jean Gabin. Et Jean Gabin va l'escroquer en quelque sorte. Et il tient un restaurant, mais vraiment ce restaurant bourgeois des années 60-70. Et il a, je trouve, un rôle assez proche de Septime d'ailleurs, dans l'orchestration de sa cuisine.
Il y a un petit peu de... C'est vrai que c'est un personnage formidable, hein, ce ripeux qui dit « je veux me goinfrer ». Il veut se goinfrer. Bon, c'est un film de Gilles Grangier. C'est écrit par Michel Audiard aussi, qui aimait beaucoup de Funès et qui l'a d'ailleurs beaucoup proposé au cinéaste qui le faisait tourner.
Alors avant de continuer de parler de Louis de Funès et de la cuisine française, on va écouter la scène du radis dont on parlait tout à l'heure. Alors inspirée par le film du Vivier, mais la vraie scène du radis jouée dans le grand restaurant.
Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites, monsieur ?
Vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite ?
Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt.
Un yaourt.
Un yaourt. Ah, monsieur ? Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez ? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux ?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux. Alors, sauterne. C'est doux ? Ah, c'est très doux. Je préférais un demi-doux.
ne bougez pas, Louis de Funès aimait faire rire et manger. Nous aurions aimé l'avoir vraiment à notre table. On continue de parler et on va remonter le temps de la cuisine française à travers ces films. Avec vous, Alain Kruger, commissaire de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque. Et c'est jusqu'au 31 mai 2021. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La soupe aux choux anglaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur.
Eh oui, la soupe aux choux, c'est le dernier film de Louis de Funès, Alain Kruger. Hein.
C'est l'avant-dernier film.
C'est le dernier alors.
Le dernier, c'est Le gendarme et les gendarmettes.
Ah, exact.
C'est un grand chef-d'œuvre, c'est le film préféré de Michel Houellebecq.
Ah oui. On n'imagine pas. C'est vrai que là, on fait l'image, oui.
Mais non, La soupe aux choux, c'est un film auquel il tenait énormément à cœur. On peut quasiment dire que c'est un film co-réalisé par Louis de Funès. C'est lui qui a fait l'adaptation avec Jean Alain, qui était un de ses fidèles, lui aussi. Et c'est vrai qu'il avait une passion pour René Fallet. Mais c'est vrai que le film ne correspond pas à cette gourmandise, à cette truculence. C'est-à-dire que le Bourbonnais reconstitué en studio, c'est un film très mélancolique.
Quel est votre film préféré de Louis de Funès? Tiens, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. La soupe aux choux, c'est un vrai plat paysan, un vrai plat rustique. Mais la cuisine bourgeoise, elle est très présente aussi dans les films de Funès. Hein, la cuisine des années 60-70.
Oui, parce que il est à table, comme souvent dans le cinéma français, on est à table. Bon, ce qui est amusant, c'est quand il va faire des voyages exotiques en Angleterre, il mange des produits assez spéciaux, hein, comme des huîtres à la parisienne. Enfin, des trucs assez bizarres
des
avec.
Des huîtres dans de la soupe au lait.
Dans de la soupe au lait et de la viande à la chantilly.
Et de la viande à la chantilly,
ouais,
exactement. Et du hot dog cerise et je ne sais plus, sauce à la menthe ou mayonnaise à la menthe.
Bien sûr.
Mayonnaise à la menthe.
C'est indispensable.
Mais ça, c'est un
base.
Petit bijou de complexe de supériorité aussi gastronomique français par rapport. À, parce qu'il dit ah, étonnant, étonnant. Et puis alors, il dit délicieuse, délicieuse, alors qu'il trouve ça absolument atroce.
Ce qui est très marrant, ouais, c'est qu'il est avec Maurice Rich, qui va être aussi l'un des serveurs du grand restaurant, qui va être aussi dans l'un des derniers gendarmes. Et il y a quelque chose comme ça de ce lien familial, de cette espèce de troupe. Mais ce qui est frappant, c'est que quand il a son accident cardiaque en 74, 75, il va changer de vie. Quand en 76...
Il est au régime, là, après.
Ah,
hein,
il est super au régime. Il est super surveillé.
À cette frugalité, presque. Hein, mais il n'était pas mécontent de ça. Quand on l'entend le raconter, parfois, on a l'impression qu'il s'en est accommodé, quand même. Non, c'était une souffrance, quand même.
Ah, moi, je pense que c'était une souffrance. Parce que, bon, alors, c'est vrai que c'était un jardinier. Il cultivait son jardin. Il avait le goût des produits naturels. Il était le premier à parler de cuisine sans pesticides.
De bio, bien sûr.
De bio. Il disait, s'il y a un seul combat qu'on peut mener, s'il faut descendre dans la rue, c'est pour la nature.
Eh bien, on va l'écouter. Tiens, justement, on a cet extrait.
Je crois que le Français moyen est maintenant très sensibilisé parce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature. Et comme le disait le commandant Cousteau, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis, ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature.
Très engagé, évidemment. Et il répondait à Alain Bougrain-Dubourg et très en avance.
Et c'était il y a 50 ans.
C'était il y a 50 ans.
Critique de la malbouffe avant l'heure. Hein,
on parlait de la rencontre avec Gabin tout à l'heure dans Le Gentleman d'Epsom. Il y a le tatou.
Ah,
alors justement, c'est un film de Denis de la Patellière en 1968. Et ben on va écouter une scène à table et vous nous raconterez tiens, comment ça s'est passé entre Gabin et Louis de Funès, Alain Crugère.
Dites-le, garçon, est-ce que le chou farci est à température?
Voilà, monsieur.
Très bien.
Vous n'allez pas manger des choux farcis après des prix.
Si. Mais donnez la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu.
C'est fantastique. Voilà une question.
Normand.
On parle de géopolitique, on parle d'enjeux mondiaux, mais voilà une vraie question. Est-ce que le chou farci est à température? On devrait se poser toute cette question avant de passer à table.
Permanence,
c'est fondamental.
En permanence, ce qui est très marrant, c'est que bon, Gabin, on sait que c'était un ogre.
Oui.
On le sait, il y a tous ces
comme
images.
Comme Depardieu,
comme Ventura,
comme Blier,
c'est une bande de bons vivants. Hein. Et ce que je trouve formidable, moi, dans cette scène-là, c'est que il y a l'initiation de Gabin à la gourmandise réelle. Je veux dire, pour l'amateur de vin, le Beaujolais de Funès dit chambré. Température de la cave, bien sûr. Voilà, toujours la précision Gabin. Moi, ce que je trouve absolument saisissant dans cette relation où ils sont tous les deux, c'est que en plus ça s'est pas très bien passé entre eux sur le tournage.
C'est ça, c'était difficile.
Parce que Gabin voulait pas être trop rougeau.
Et il l'était. Hein.
Et de Funès voulait avoir les yeux bleus.
C'est ça.
Qui étaient plutôt gris, comme le dit Mireille Darc dans Les Bons Vivants. Donc il y a ce réglage de lumière qui est absolument incompatible. Oui. C'est vraiment des scènes de gourmandise.
Mais c'est un film à revoir, Le Tatoué aussi, hein, parce que c'est un très beau film. Voilà, on voit ces extraits d'ailleurs dans votre belle expo Alain Crugère à la Cinémathèque du Paris jusqu'au 31 mai.
Métro Bercy.
Et vous êtes également à la tête d'une exposition qu'il faut voir actuellement à la Villette sur le repas gastronomique des Français. C'est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors, il n'y a pas de funeste là, mais ce sont de belles grandes tablées.
C'est gratuit.
Oui.
C'est au pavillon Villette, c'est-à-dire au métro Port de la Villette. Et on a essayé de restituer ce lien essentiel de la table entre les Français et la table, ce qui nous unit, ce qui nous réunit.
Et profitez des vacances pour vous faire un bon Louis de Funès après la table. Merci Alain Crugère
merci à vous
d'être venu. Comme Louis de Funès, il aime manger en conscience avec la nature. Le comédien Pascal Légitimus vient se mettre à table dans un instant. A tout de suite. Oyez, oyez, bonnes gens. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Et oui, on se projette en 2021. Déjà, on en a marre de 2020. Adepte d'une cuisine qui fait du bien au corps et à l'âme. Comédien, humoriste, metteur en scène. C'est un homme engagé pour le bien manger, bien dans son assiette. Il apprécie les bons mets et les bons mots. La preuve avec son dernier livre, L'Alphabétisier. C'est Pascal Légitimus, notre invité. Bonjour Pascal.
Hola, que tal?
Bonjour.
Muy bien.
Oui, muy bien.
Muy bien.
Si, si.
Ravi de vous retrouver à cette table, Pascal Légitimus, parce que vous êtes un bon mangeur. Vous faites très attention à ce que vous mangez.
Hein. Oui, c'est plus. Je fais plus attention qu'être un bon mangeur, évidemment.
On non, est mais tous... bon dans le sens aussi éthique, en fait.
Juste eu compris, tout à fait. J'aime plus la qualité à la quantité, ça c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai été élevé par mes parents, voilà. d'une manière plutôt noble, respect des hommes et de la nature. Donc forcément, dans l'assiette, il y avait des choses plutôt de bonne alloi.
La transmission est toujours là. Alors vous venez nous voir avec votre alphabétisier sorti l'année dernière. Alors c'est très marrant parce que c'est vraiment un livre avec des exercices de style un petit peu façon Raymond Queneau. Vous vous amusez à inventer des nouveaux mots, des néologismes, comme on dit.
C'est ça.
Alors j'en ai quelques-uns, tiens. Moi, j'adore. Il y a la confriture. Vous savez ce que c'est que la confriture ?
C'est de la confiture frite.
Non, c'est de la compotée de petits poissons, la confriture. Il y a du crabillot aussi. Le crabillot, on ne connaît pas bien, mais c'est une espèce de morue à pince qui nage de travers. Ça, c'est le crabillot. Et vous savez ce que c'est qu'un gastronaute ? C'est un chef qui est le plus souvent étoilé dans les spatialités culinaires qui vous envoient au 7e ciel.
Ouais, pas mal.
C'est joli, hein ?
Oui, il y a du sens.
Il y a du sens.
Tout est logique.
Et c'est poétique aussi, parfois.
Oui, puis j'aime bien aussi l'apérophagie.
Allez-y.
Alors, gaz dû à une trop grande absorption d'alcool.
Je ne connais pas de quoi.
Non, c'est pas. Ouais. Ça ne nous parle pas. Quel est votre goût de la semaine, Pascal Légitimus ?
Un repas avec une très chère amie, Caroline Proust, et une très bonne cuisinière. Sauf qu'à chaque fois
très bonne comédienne.
Oui, en plus. Mais à chaque fois que je viens chez elle, elle fait des plats très, très extrêmes dans les goûts. Ce qui est épicé, ce qui pique, du curcuma. Et puis elle y va, quoi. Et moi, je n'aime pas les extrêmes. Je suis plutôt... J'aime pas, par exemple, j'aime pas la morue. Je suis désolé.
Voilà. Trop salé.
J'aime pas le hareng. J'aime pas la truffe. J'aime pas...
Vous aimez pas les goûts forts prononcés, quoi.
Voilà. Ouais. Et elle, c'est l'inverse. Donc elle me fait toujours... elle dit, Pascal, allez, vas-y, quoi. Je dis, mais non, mais là, ça va pas le faire... Sinon, je vais être sponsorisé par Pampers. Donc, du coup, ça va être très compliqué. Donc, elle me fait toujours du soft. Mais oui. J'avoue qu'elle a le sens des épices, du partage aussi, parce qu'elle adore ça. Puis, elle a des très bons vins. Donc, je la salue si elle nous écoute.
Vous êtes un centriste de la cuisine, en fait.
Absolument.
C'est ça.
le mec qui se mouille pas, quoi. Tu vois.
Ah, en même temps.
Le milieu.
Vous êtes le parrain des cantines rebelles, Pascal Légitimus. Les victoires ont été remises ce mercredi à l'hôtel de ville de Paris avec Georgiania View, qui était la marraine, qui est une chef cuisinière qu'on aime beaucoup, qui est itinérante aujourd'hui, mais qui a longtemps sévi à Marseille. Pourquoi vous êtes engagé dans ce combat des cantines scolaires avec l'association 1 plus Bio qui fait un super boulot justement pour qu'on mange bien dans de nombreuses cantines scolaires?
Je m'étais dit oui, ils m'ont proposé, j'ai dit oui parce que c'est logique. Et c'est vrai que ma fille qui est dans une cantine, enfin dans une école, il y a une cantine qui n'est pas encore tout à fait bio et on essaye d'insister pour qu'ils opèrent dans ce sens-là. Donc je me suis dit, si je peux apporter ma petite pierre pour faire avancer le schmilblick, ça serait de bonne aloi.
Et voilà,
j'aime bien ce mot-là, de bonne aloi. Vous allez l'entendre souvent.
Et on l'utilise. Ben on aime bien parce qu'on ne l'utilise pas assez souvent, hein, notre goût. Et voilà, les victoires étaient remises cette semaine, mercredi, à l'hôtel de ville de Paris. C'est l'association 1 plus Bio. Je m'adresse aux élus, par exemple, aux chefs cuisiniers qui ont envie de faire bouger les lignes de leur cantine. Vous pouvez vous rapprocher de cette association, par exemple, pour faire du beau boulot.
Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Puis en plus, les gens sont très investis. Puis en même temps, j'ai vu qu'il y a une cantine qui était 100% bio, ce qui est très rare. Donc non, il y a des efforts qui sont faits pour que nos enfants puissent manger sainement et vivre et de bonne aloi.
Vous me faites la transition de bonne aloi, Pascal Légitimus. C'est la semaine du goût, l'occasion de mettre en lumière ceux qui se battent pour éduquer les enfants au bon goût. Et Charlotte, il y a notamment une initiative qui vous tient à cœur.
Oui, une association de bonne aloi, là aussi, qui est en train de tisser de très beaux liens de goût auprès des enfants dans les écoles publiques. Ça s'appelle l'école comestible. Elle a été fondée par la journaliste Camille Labro sur le modèle, vous savez, de l'Edible Schoolyard, qui est ce prodigieux jardin potager de la chef américaine Alice Waters à Berkeley et qui a fait des petits dans le monde entier. Il s'agit d'apprendre aussi aux enfants les liens qui existent entre la terre et l'assiette en reconnectant l'agriculture, la cuisine et la dégustation. Alors, ça paraît évident comme ça, hein, mais tout est à construire parce que les enfants, surtout les citadins, peinent globalement à reconnaître les légumes entre eux et associent plutôt le jardin aux animaux de la ferme ou au manège du jardin d'enfants. Donc il y a quand même un peu de boulot.
C'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, une étude avait d'ailleurs fait grand bruit en révélant qu'un enfant sur trois ne savait pas reconnaître une courgette. Hein. Courgette, concombre, c'était pareil. Et plus de 8 sur 10 d'entre eux ne savaient pas du tout à quoi ressemblait une betterave.
C'est ça.
Alors comment elle fait l'école comestible, justement, pour bien transmettre?
Alors tout passe par l'expérience, grâce à des ateliers thématiques qui sont sensitifs, ludiques, pédagogiques, pratiques. On leur apprend par exemple les goûts primaires, le salé, le sucré, l'amer, l'acide. Ils font des bases de vinaigrette, ils s'amusent à y ajouter du piquant, du salé. Et puis quand on peut installer un petit bac à potager dans la classe, ils plantent eux-mêmes leurs brocolis. Et au final, ce qui change tout quand les enfants mettent la main à la pâte, c'est qu'ils finissent par eux-mêmes, par aimer ce qu'ils ont produit eux-mêmes et ils découvrent naturellement le bien manger.
Eh ben merci Charlotte Langrand, l'école comestible. C'est bientôt l'heure du plat du jour, un plat en trompe-l'œil, tiens. Vous aimez jouer avec les mots, eh bien on va jouer avec la nourriture pour la bonne cause. Pascal Légitimus, ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite.
Moi je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1. Moi je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Nous avons fondu devant le patidou, nous avons remonté le temps de la cuisine française à travers les films de Louis de Funès, sans oublier la belle tarte aux pommes de Jacques Prévert, racontée par Jean-Luc Petit-Renaud. Écoutez le podcast sur Europe 1.fr, c'est une histoire formidable, cette histoire de tarte aux pommes. Et nous revoilà avec l'amoureux des mots, Pascal Légitimus, notre invité jusqu'à midi et demi avec son alphabétisier. Voilà, c'est bientôt la période des cadeaux de Noël. Si vous voulez jouer avec les mots en famille, eh bien, il y a les belles définitions de Pascal Légitimus. Tiens, ben, il y a omelette, tiens, je tombe dessus, mais vraiment au pif. Alors là, faut que je chausse.
Il n'y a pas de hasard, on appelle ça de la synchronicité.
C'est ça, omelette avec un H. Monsieur imprévoyant qui a eu l'inconscience de mettre ses œufs dans le même panier. En tombant, il les a tous cassés.
Voilà.
Oui, c'est joli. Non, mais il y en a plein.
Oui, effectivement, il y a des fausses épitaphes. On a créé des épitaphes parce que c'était amusant. Notamment, l'épitaphe de Macron, c'est « Emmanu, tu descends, c'est déjà fait ». L'épitaphe de Jean-Marie Le Pen, c'est « Et dire que toute ma vie, j'ai combattu les morts ». Voilà. Donc, on s'est amusé à jouer avec les mots, comme le faisaient évidemment Pierre Dac, Alphonse Allais. Et puis, moi, c'est mon métier en même temps. Donc, je me suis amusé grâce, sous l'initiative de Gilbert Join, qui a eu cette très belle idée d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre à un mot. Et ça donnait un néologisme.
L'alphabétisier chez Michel Lafon. Cuisiner est un plaisir quotidien pour vous, Pascal Légitimus ?
Oui, parce que ma femme ne cuisine pas. Donc, a fortiori, c'est moi qui cuisine, mais j'adore ça depuis tout petit. J'ai observé mes parents qui faisaient ça avec amour. Donc, j'essaie de transmettre, parce que pour moi, évidemment, c'est un acte d'amour, la cuisine. Et j'adore ça. Et moi, j'adore mélanger les épices.
Ah, voilà. Non, on va
pas
en parler.
Épiques, mais les, non, épices.
Les épices, oui, qui donnent du relief. Des trois inconnus, tiens, lequel c'est le mieux cuisiné ?
Bernard, je pense qu'il n'est pas mauvais. Didier, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu Didier cuisiner.
Ah.
Non, quand on bossait chez lui à l'époque, ou on bossait chez moi, c'était plutôt voilà, des cacahuètes, des bricoles, des choses comme ça. Mais je me vois
grignoter,
pas...
quoi. Ouais.
Oui, puis on allait souvent au restaurant. Quoi,
c'est ça, pour passer à autre chose.
Voilà,
oui,
pour passer à autre chose. Et puis surtout, parce qu'il fallait le temps d'écrire, et on perdait moins de temps à faire la cuisine. Donc du coup, non, je pense que c'est moi, sans vraiment flagornerie. Voilà.
Eh bien, justement, de bonne aloi, une question... Pascal Légitimus, on vous dit le roi de la sauce salade. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette réputation ?
Il se trouve que quand on vient à la maison, je fais des salades. Alors, les salades, je mélange des choses, des carottes, voilà, des haricots verts, enfin, tout ce qui est un peu coloré aussi. Mais la sauce, pour moi, c'est donc effectivement de l'huile, d'olive, de la moutarde, d'estragon.
Ah oui, c'est bon, ça.
Je rajoute des petites épices, un peu de curcuma léger, mais surtout du vinaigre de cidre.
Qui est plus doux.
Voilà, qui est plus doux.
Il est plus doux.
Non pas balsamique, qui est plus agressif, mais surtout de la confiture.
Ah.
Et on me dit, mais t'es malade ? Non, non, non. Donc je mets de la confiture...
De quoi ?
Groseille, plutôt rouge.
Oui, non, c'est acidulé, votre histoire.
Tout
là.
À fait. Et quand j'ai des plats un peu plus agressifs, je mets du miel.
Ah, j'adore le
et
miel.
Et tout ça, ça fait une espèce de sauce un peu sucrée.
Elle me plaît, votre sauce, moi. Je vais la tenter ce week-end.
La confiture, j'adore.
Oui, non, et puis le vinaigre d'estragon et la moutarde d'estragon et le vinaigre de cidre, c'est un bel accord aussi.
Ça la cote.
Alors, vous aimez bien le végétal, Pascal Légitimus. On vous a préparé un tartare, justement, 100% végétal et de saison. C'est Willy Berton qui est le chef du Vegan Gorilla à Nice, un restaurant végétalien, comme son nom l'indique. Il est 100% bio. C'est à deux pas de la place Masséna, hein, pour les Niçois qui nous écoutent. Et comme le chef Alain Passard, eh bien Willy Berton, il aime jouer avec la couleur et la texture de la betterave. Frédéric Michel, notre correspondant dans la région, était aux premières loges pour suivre ce plat trompe-l'œil qui va bientôt nous retrouver à table.
Oh, chouette. Visuellement, vous allez avoir l'impression de manger un tartare. Gustativement, vous allez avoir l'impression de manger un tartare, mais vous ne mangerez pas un tartare. Alors, il va falloir des champignons de Paris, de la betterave crue, capre, cornichon, moutarde, ketchup, persil, échalote ou cébette. Donc, on prend un robot Thermomix pour ceux qui ont un Thermomix à la maison, un robot blender, enfin, quelque chose qui est capable de couper des légumes assez rapidement. Donc, on met les champignons dans le robot. On va pas mixer trop fort. Donc quand on a une texture grossièrement hachée, on va ajouter la betterave. Nous, on mixe la betterave déjà en purée, comme ça elle garde sa couleur. Elle ne sèche pas. Donc une fois qu'on a la texture, la couleur souhaitée.
Ah oui, là ça ressemble vraiment à de la viande. Hein.
Donc là, on va ajouter des câpres, une bonne cuillère à soupe de cornichons, pareil. On va mettre une bonne pincée de cébette, ce qui va remplacer l'échalote ou l'oignon. On va mettre, pareil, une bonne cuillère à soupe de moutarde, une belle pincée de persil, de l'huile d'olive. Et on va rajouter du ketchup.
Et là, on mélange.
Et on a notre steak tartare. Ce plat-là, on peut le servir avec une salade, des frites, comme un tartare classique. C'est un peu le fil conducteur de ma cuisine. J'aime bien jouer avec les saveurs, les textures et surtout avec l'œil du client. Ça crée des choses, la curiosité et se dire « Attends, là, c'est pas normal, je suis dans un resto vegan et je mange un tartare qui ressemble à du tartare de bœuf. »
Ça intrigue, c'est vrai. Merci Frédéric Michel et bravo Willy Berton pour ce tartare végétal. On l'a refait avec sa recette, on vient de le refaire juste avant l'émission. Lucille Escourou, notre rédactrice en chef, s'est mise au tartare vegan. Et c'est vrai que ça ressemble à un tartare mixé en fait, hein, plus qu'un tartare haché au couteau. Quoi.
En tout cas, dans l'apparence, c'est le tartare. Quand j'ai commencé à sentir, il y avait le goût du tartare. Moi qui déteste le mot tartare parce que je n'aime pas ce qui est cru. Là, j'ai commencé à tremper mes lèvres.
Et c'est bon, hein, c'est vrai que c'est bien assaisonné, c'est un bel équilibre.
C'est goûteux, c'est un petit peu acidulé, c'est pas mal. Hein.
C'est le champignon qui donne le corps. Ouais. Hein,
on sent d'ailleurs le petit goût du champignon, ce côté légèrement. Mais c'est pas envahissant parce que c'est très tempéré par le côté plus rond de la betterave. C'est une très belle association.
Ah oui, très équilibré.
Comment vous faites pour avoir ce vocabulaire
La recette sur europe1.fr.
Parce que depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il y a des émissions de cuisine, il y a un vocabulaire qui est entré... dans la langue française, qui est incroyable.
Oui, puis c'est l'imaginaire aussi de la radio où on doit donner en fait envie à nos auditeurs de participer à cette tablée avec nous. Hein, Olivier Pouls.
La cuisine et le vin jargonnent beaucoup. Hein.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce tartare, tiens ?
Ce qu'on pourrait boire d'ailleurs avec un classique tartare de viande. Moi, je verrais bien un vin du Beaujolais, par exemple, souple et fruité à la fois. Voyez-vous encore un descriptif.
Tout à fait. Ce spectacle est égouléant.
Voilà.
Ça y est, maintenant, je vais parler de ça pour mes spectacles.
Il a de la cuisse. Eh bien, on se retrouve dans un instant avec Olivier Pouls pour les 2 minutes du vin. Restez avec nous et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Le tartare de betterave de Willy Berton à Nice lui a fait un effet bœuf. Pascal Légitimus est à table avec nous. C'est lui qui le dit hein, pour le présenter à sa carte. J'ai repris cette belle expression, mais c'est vrai que ça lui va bien, ce tartare. Pascal, vous avez grandi entre deux univers, hein, vous nous le disiez. Votre papa antillais, votre maman arménienne. Vous avez vraiment grandi entre deux cultures culinaires.
Hein. Tout à fait. Extrême et en même temps complémentaire, parce que d'un côté, la cuisine antillaise est assez lourde. Beaucoup d'huile,
de friture,
mais c'est des bonnes fritures, notamment le börek, qui est espèce de, un peu comme le feuilleté libanais avec du fromage de chèvre dedans, et on met des petites épices. Et puis du côté entier, le boudin entier, évidemment, mais mon préféré, c'est quand même le colombo d'agneau, ou de poulet, donc au curry, et ça, c'est avec des haricots rouges, et on mélange avec du riz blanc. Voilà, ça, c'est la base. Alors, c'est vrai qu'à la maison, le midi, il y avait arménien, et le soir, il y avait antillais. Mais c'est vrai que le lendemain matin, Alors, j'ai pas grossi pendant toutes ces années.
Ah non, vous avez la ligne. Hein.
J'ai la ligne, mais voilà, c'est un repas équilibré.
La cuisine arménienne, elle n'est pas toujours bien connue. Ça ressemblait à quoi? Il y avait donc ces boureks, que vous dites.
Les boureks. Et puis moi, mon plat préféré, c'est le gâteau qu'on fait à Pâques, c'est le tchurek. Il y a beaucoup de hek dedans, effectivement. C'est un gâteau un peu d'orange, du sésame dessus, c'est très très bon. Et puis les feuilles de vigne. Et moi, mon préféré, c'est le midia. Le midia, c'est des moules farcies avec un peu de riz et des fois des raisins secs. Et c'est sublime.
Alors, on va parler vin maintenant avec Olivier, cher Pascal. Olivier, je vous ai demandé de nous éclairer sur un savoir-faire bien français, très recherché. Une dénomination que l'on trouve parfois sur des bouteilles, de belles bouteilles dans presque toutes nos régions, c'est le Clos. Le Clos, C-L-O-S. Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce qu'on ne connaît pas tous bien la dénomination de ce clos et qu'est-ce qui se cache derrière, surtout.
Alors oui, cette mention clos qu'on trouve essentiellement en Bourgogne, hein, il y en a plusieurs dizaines là-bas, Clos Vougeot, Clos Tard, le Clos des Fèves, je vous en ai apporté là à Beaune, le Clos Clos qui se danse et qui se chante.
Faut pas le manger dans une baignoire celui-là. Le boire dans une baignoire, pardon, excusez-moi.
Alors, on en trouve en Champagne aussi avec le Clos du Ménil, on en trouve en Alsace, le Clos Winsbull, on en trouve même à Bordeaux, figurez-vous, du côté de Saint-Émilion avec le Clos Fourtet ou le Clos du Breuil. Alors, c'est une mention qui est aujourd'hui encadrée. Hein. On parle de vin d'appellation d'origine protégée et cette mention de Clos concerne des parcelles qui sont encadrées, ceintes de murs ou de haies vives. Voilà, c'est un terroir en quelque sorte isolés et qu'on ne pouvait pas passer à cheval.
Ça vient d'où cette histoire? Pourquoi on les entourait, ces clos?
Eh bien, on ne le sait pas vraiment, figurez-vous. Ces clos sont apparus au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, et on ne sait pas très bien pourquoi certaines parcelles ont à ce moment-là été entourées de murs. Alors, il y a plusieurs explications. Est-ce qu'on voulait les soustraire de la propriété globale pour éviter peut-être notamment de payer des impôts? Est-ce qu'on voulait au contraire les délimiter parce qu'on considérait que c'était un terroir qui était plus qualitatif? On n'a pas l'explication exacte de la construction de ces murs.
Ils sont vinifiés à part du reste du domaine, en fait.
Oui, alors en Bourgogne, historiquement, bien sûr, c'est très traditionnel de les considérer comme une entité à part et distincte. Effectivement, le clos des Lambrais, le clos de Tarbes, le clos Vougeot sont des clos très célèbres qui sont des appellations aujourd'hui, souvent en grand cru.
Mais il y en a ailleurs, il y en a en Moselle, il y en a dans le Languedoc, il y en a un peu partout.
Et il y a, il faut bien le dire, une espèce de phénomène de mode aussi aujourd'hui autour de ces clos, parce qu'on a bien compris qu'on jouait là sur une spécificité, sur des volumes de vin qui sont contenus, parce qu'en général, ces clos sont assez petits, et puis ne peut prétendre à l'appellation clos que les vignes qui sont à l'intérieur de ces murs. Donc on est sur des quantités assez restreintes, et donc forcément, qui se valorisent un peu mieux. Et exactement.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté là?
Alors je vous ai apporté deux clos là.
Des bonbons.
Voilà, donc là je vous ai apporté le clos des fèves du domaine Chanson en Bourgogne, qui est un monopole de l'appellation Beaune. Donc c'est un clos sur cette appellation Beaune qui est en premier cru, donc c'est évidemment du Pinot Noir bourguignon. Et je vous ai apporté un autre clos qui est un clos là qui nous vient de Saint-Émilion, qui est le clos du Breuil. Là on est sur un assemblage totalement différent.
Ah, le clos des fèves, là c'est ce que j'ai, c'est très très bien.
Il est jeune me semble-t-il.
Oui, c'est 2017, alors on est sur des vins qui ont des potentiels de garde de 10, 15 ou 20 ans. Vous allez voir, on est voilà sur probablement une des plus belles expressions de l'appellation Beaune, avec ce petit côté griotte, ce petit côté cerise qu'on a typiquement dans les Sauvignons.
Il y a un peu de terre, enfin de la terre, j'ai dit n'importe quoi, mais il n'y a pas que des fruits, il y a autre chose.
Petite pointe d'épices aussi, et puis on a une très belle complexité.
Structure.
Alors, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que ces clos, aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent des bouteilles un peu chères, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça devient un argument marketing, parfois à outrance, il faut bien le dire. Découvrez ça, et en tout cas, sachez que quand vous buvez un clos, vous buvez un vin issu d'une petite parcelle entourée de murs.
Moi, j'ai une petite vigne chez moi.
Oui, racontez-nous, c'est vrai.
Une vigne grimpante, j'ai récolté 35 kilos. Donc, je vais faire un clos légitimus, évidemment.
Mais vous pouvez.
Clotimus.
Vous en faites quoi de votre raisin?
Je fais du jus ou je le mange. Donc, une petite cure de raisin.
Ça. Des polyphénéols avec les pépins à l'intérieur. C'est bon, ça, pour la santé.
Pour maigrir, c'est
excellent.
Très bien.
Et on embrasse tous les fèves qui nous écoutent, parce que c'est un nom de famille aussi, les fèves. Merci, Olivier Pouls. Et puis, il y a un très beau livre également, si on veut approfondir le sujet sur les clos.
Absolument. Clos, un patrimoine viticole. Je vous invite à le feuilleter. Il est magnifique. C'est un livre de Benjamin Darrot, paru aux éditions de La Martinière. Vous en saurez encore plus sur ces parcelles viticoles exceptionnelles.
Allez, on reste ensemble jusqu'à midi et demi. Vous allez passer sur le grill des bons vivants, cher Pascal Légitimus.
Chouette.
Votre plus beau repas, le goût de votre enfance, ce sera juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de l'émission en compagnie de Pascal Légitimus, qui se tient très bien à table. Depuis midi moins 5, il est avec nous. C'est un bonheur.
J'ai pas bu, donc je suis pas bu. Je suis un petit peu noir, mais j'ai pas bu. Voilà.
Bon vivant et curieux. Vous aimez passer une tête en cuisine, on me dit souvent au restaurant, Pascal. C'est pour l'ambiance ou c'est pour demander des conseils, des trucs au chef?
C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que j'adore les cuisines, déjà. L'énergie des cuisines, la créativité. Et puis surtout, la sagesse et surtout l'empathie. Je trouve que toutes les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie ont une empathie, une humanité qui me plaît beaucoup plus que certains hommes politiques. Voilà, ça je l'ai dit. Et c'est vrai qu'en cuisine, il y a une affection, il y a beaucoup d'amour. Et j'adore poser des questions et apprendre tout simplement.
On est proche du spectacle vivant aussi, il faut faire plaisir aux autres. Ça part du même acte. Vous avez eu la chance, à propos de grand artiste, de partager un repas avec Henri Salvador?
Ah oui, oui. Un jour, il me dit, écoute Coco. Alors, je fais un peu l'accent. Il me dit, Coco, t'aimes bien bouffer? Je dis, oui. Écoute, demain, je t'invite dans un restaurant, mais tu ne bouffes pas de la journée, tu ne bouffes pas de la veille. Et il m'emmène au Grand Venise, qui est rue de la Convention, qui est un restaurant italien. Et je le vois desserrer sa ceinture. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? On va bouffer.
Mais je comprends très bien ça, je fais
pareil. Et là, je vois arriver pléthore d'entrées, donc des légumes, des choses un peu crues. Ensuite, pléthore d'entrées, charcuterie italienne et vas-y, des convois. Et ensuite, y a un, le monsieur me dit, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez poisson ou viande? Je dis, non. Et il me dit, on prend les deux. Et on m'amène un poisson, évidemment, sur son assiette, et qui faisait bien 3, 5, 6 kilos, un mastoc, je crois que c'était du bar. Donc on fait le poisson, paf, 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 le poisson arrive, et la viande arrive derrière. Ah, ok, c'est bon. Après, il y a des légumes, donc ok, c'est bon. Et là, je vois des pléthores de fromage. Ben oui, il y avait 5, 6 fromages italiens. Il me dit, hey, tu bouffes? Ouais, ouais, c'est parce que moi qui paye. Ouais, d'accord, ok. Donc, je m'enquille tout ça, je desserre ma ceinture au fur et à mesure. Mais j'ai l'habitude de bien mâcher. Donc, du coup, c'est de la bouillasse quand c'est dans mon ventre.
Oui,
donc,
vous mastiquez beaucoup, oui.
Énormément. Et à la fin, on me dit, ah, et puis, il faut manger les desserts. Je dis, c'est quoi? C'est la cassata. Je dis, c'est la cassata. Et il m'a mis une glace de 1,20 m. Et j'ai dit, mais non, et si ça c'est pour 3, parce qu'il y avait sa femme qui était là. Et puis voilà, donc je suis rentré à plat ventre. Mais j'avoue que c'était mémorable, on s'est bien amusé.
Joli spectacle. Eh bien, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Pascal Légitimus. Alors, quel est le goût de votre enfance, Pascal?
Le goût de mon enfance, c'est la cuisine arménienne et antillaise. Voilà, ce sont ces odeurs qui se mélangeaient. Et puis, mais j'avoue que petite préférence pour les desserts, notamment mon père faisait des bananes flambées au rhum, au vieux rhum, et que je reproduis aujourd'hui.
Théo Légitimus, votre papa, ouais. Grand acteur aussi, votre
ouais,
papa.
Oui, oui, quelqu'un qui a œuvré en tant que musicien, puis acteur. Et puis ma grand-mère, Darling Légitimus, à qui je rends hommage, évidemment, dans un documentaire. Voilà.
Oui, vous venez d'une famille d'artistes. Le premier plat que vous avez cuisiné, Pascal?
Un gratin de légumes, voilà, il y a très très longtemps, parce que je me dis, tiens, je vais faire un essai. Et en fait, ça a super bien marché, donc j'ai mis du foie gras. Et ça a beaucoup plu. Donc il y avait des légumes, du fromage râpé, relégumes, et au milieu, j'ai mis un peu de foie gras. Et on m'a dit, tiens, pas mal.
Oui, ça donnait du voilà. Corps et de l'onctuosité.
Pas trop un gratin de légumes dans les règles de l'heure,
mais... C'est pas vegan.
Bon, écoutez.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Avec des amis. J'ai eu l'occasion d'inviter lors d'une tournée théâtrale Julie Debonat, Philippe Lelièvre et Claire Nadeau dans un restaurant
bons acteurs
en Suisse, à Genève, le Tsefung, qui est un restaurant asiatique étoilé. Donc je n'ai pas fait la cuisine, mais j'ai jamais mangé une cuisine asiatique aussi raffinée et polyvalente dans les goûts. Voilà.
Et votre pire repas?
Le pire repas, c'était chez des amis, un couple d'amis. On était 5, 6, 7, 8 à table. Et là, je vois arriver dans l'assiette rien. C'est-à-dire du néant, c'est-à-dire des petites portions. Un petit bout de poulet, un peu de riz, un peu de frites.
La nouvelle cuisine.
Par contre, le vin, beaucoup de vin. Et un peu de dessert. Et donc, on avait faim, quoi.
Ah oui, non.
Donc, on n'a rien dit, on s'est regardé les uns les autres. C'est une espèce de gêne.
On va peut-être donner le nom de ces amis, maintenant.
Vous les voyez toujours ou pas?
Oui, je les vois toujours, mais bon, je ne mange pas chez eux.
Ça change dans le Salvador.
Oui, oui.
Votre bande originale pour cuisiner?
La bande originale, pour moi, c'est du Charlie Parker. Musique un peu, voilà, Charlie Parker en fond. Donc, musique de jazz. Et puis, de la musique brésilienne. Je trouve que ça adoucit. Ah oui, voilà.
Ah oui, voilà.
Quand on met ça, on rentre chez des amis, j'entends ça, je me dis, il va se passer, on va passer
oui,
une bonne
on va
soirée.
Bien. Oui, c'est vrai.
On détend.
On se détend et on va se faire plaisir, on va bien manger. Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Pascal Légitimus?
J'emmènerai ma femme.
Vous n'allez pas la manger quand même?
Écoutez, en tant que cannibale, peut-être que... ou des amis. Si à un moment donné, j'ai des problèmes, je sais que moi, je peux. Et... Non, il y a beaucoup de choses que je pourrais emmener, mais c'est compliqué. Non, je peux pas faire de choix.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Pascal Légitimus?
Alors, le mot de la fin, je trouve que la cuisine est la seule chose qui nous permet de faire l'amour à plusieurs sans préservatif.
Oh, joli.
Oh.
Ah, oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, bravo. Et merci d'être venu, Pascal Légitimus.
Merci d'être resté.
Vous avez été un très bon vivant. Et si on veut prolonger le plaisir des bons mots, justement, de Pascal, eh bien, je vous conseille L'Alphabétisier, paru chez Michel Lafond. Merci, Pascal.
Merci à vous.
Et à bientôt sur scène, au théâtre, à la télévision, au cinéma. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef, Julien Amat à la rédaction, Jean-Luc Arblade, Coco à la réalisation et Agnès Vaudin à la programmation. Rendez-vous sur europe1.fr pour les podcasts et les recettes. Samedi prochain, nous serons avec José Dayan, qui est une fidèle de l'émission et qui se tient très bien à table aussi.
Je vais tourner avec elle bientôt.
Ah, et ben voilà, on en parlera. Merci, Charlotte Langrand.
Merci, Laurent.
Merci, Olivier Pouls.
Eh ben bonne semaine les amis.
Soyez prudents, n'oubliez pas, faites le marché, la cuisine. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1.